Mais quel bonheur de vous retrouver, Philippe Nonier et Diego Arrabal. Comment allez-vous ?
Très bien, mon cher Philippe Subercase, bonjour.
Bonjour les deux Philippe.
Et bonjour Diego Arrabal.
Bonjour mon cher ami.
Allez.
Alors un jour, un livre, un auteur, et de quoi, c'est quoi le sujet de cette émission ?
Ah, c'est un sujet, aujourd'hui on va travailler le devoir de mémoire.
Ah, oula.
Ça vous et vous verrez que la semaine prochaine, ça sera également un thème, effectivement, que l'on aura. Vous savez que c'est un thème qui m'est très cher. Il m'est très cher, pourquoi ? Parce que la résistance à la barbarie est souvent une histoire d'homme, ou pour être plus exact, une narration faite par les hommes pour les hommes. Peu de place est laissée aux femmes dans ces récits. Et pourtant, comme d'habitude, la réalité est bien plus nuancée. Et c'est justement le thème du roman « Lettres absentes », publié aux éditions du Chèvrefeuille étoilé. Nous recevons donc son auteur. Bonjour Manuela Parra.
Bonjour. À vous tous. Bonjour aux Pyrénées.
Et merci. Lettres absentes. Voici justement la quatrième de couverture de votre roman publié aux éditions du Chèvrefeuille étoilé, Manuela Parra. Et si les absentes pouvaient encore parler ? Elles s'appellent Inès, Juliette, Louise, Mathilde, Antonia. Certaines ont existé. D'autres s'inspirent de témoignages, espagnols ou françaises, engagées dans la résistance contre le fascisme et la barbarie nazie, elles furent emprisonnées, torturées, parfois exécutées, souvent oubliées. Cette correspondance imaginaire, profondément documentée, offre un dialogue entre ces femmes de l'ombre et l'autrice et crée du lien entre elles. Porté par la plume inspirée de Manuela Parra, témoin de notre temps, ce roman polyphonique redonne chair et âme à ces résistantes dont les luttes résonnent encore aujourd'hui. Entre fiction et mémoire, ce livre est un fervent hommage à celles qui ont osé dire non, à celles qui ont aimé, douté, résisté, à celles dont la parole, trop souvent étouffée, devient ici un cri de vie. Manuela Parra, comment vous est venue l'idée de ce roman « Lettres aux absentes » que vous avez publié au Chèvrefeuille étoilé ?
Eh bien, d'abord, si vous voulez, il m'est venu spontanément, après vous savez que je suis aussi présidente de l'association qui organise les rencontres franco-espagnoles.
Alors, vous allez nous parler de ça. Vous allez commencer par nous parler de ça pour les auditeurs et les auditrices, parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde connaisse effectivement cet aspect-là. Allez-y.
Ben, c'est une association qui est le miroir d'une association qui existe en Espagne. Vous savez que moi, je suis fille de l'exil des républicains espagnols et puis de l'exil économique aussi. Donc, je suis pratiquement espagnole. D'ailleurs, j'ai la nationalité espagnole. Et si vous voulez, je participe en Espagne à un mouvement qui s'appelle Voces del Extremo avec des jeunes espagnols, artistes, auteurs. Et j'ai souhaité créer Voix de l'extrême en France et on organise chaque année les rencontres franco-espagnoles où on invite des artistes, des écrivains pour, si vous voulez, mettre la culture au cœur de notre engagement et avec la même conviction que nos anciens, c'est-à-dire qu'ils avaient mis la culture au cœur de la République parce qu'ils pensaient que c'était un levier de transformation sociale. Voilà. Et donc, en 2024, on a organisé les rencontres franco-espagnoles, c'était la cinquième édition.
C'est à Montpellier que vous organisez ça.
À Montpellier, qui s'appelait Racines et Raíces. Et nous avons fait un grand travail autour de Georges Samprun. Voilà, hein, puisqu'il était des deux côtés de la frontière et que c'est un homme qui s'était engagé dans la résistance. Et j'ai beaucoup travaillé sur Georges Samprun, notamment son premier livre qui s'appelait Le Grand Voyage. D'ailleurs, on a poussé
magnifique
un spectacle.
Roman, oui.
Magnifique roman, le premier roman qu'il a écrit. Et d'ailleurs, on a aidé une compagnie à faire une création autour du Grand Voyage. Et puis, ce livre m'a bouleversée parce que j'avais lu d'autres livres, mais celui-là m'a particulièrement bouleversée. Et ça m'a rappelé tout le travail que j'avais fait quelques années auparavant sur les femmes engagées, les Espagnols engagés en France qui avaient connu Ravensbrück. Et avec ce qui se passe en France, parce qu'on découvre aujourd'hui la montée du fascisme même en France, et donc j'ai eu honte. Et je me suis dit, tous ces gens, toutes ces femmes françaises et espagnoles qui se sont battues, qui sont souvent oubliées, puisque les femmes sont souvent les oubliées, ben, ça a été pour moi une libération que d'écrire la première lettre à Inès. Et après, ça s'est enchaîné tout seul, parce que c'est quand même plus de 20 ans de collecte mémorielle, d'entretien, de rencontres avec des hommes et des femmes qui ont connu la barbarie nazie, ou leurs descendants qui m'ont livré leur histoire. Et j'ai eu besoin d'écrire lettres aux absentes. Donc, si vous voulez, c'est pas été un projet qui construit, anticipé. Ça a été pour moi une libération. Voilà.
Vous dites que les femmes sont souvent oubliées. Moi, j'ai le sentiment que les femmes sont même toujours oubliées dans le cadre, effectivement, de la résistance. On voit bien, par exemple, personnellement, je suis philatéliste, on voit très souvent que dans les séries de timbres qui ont été consacrées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, donc aux résistants, beaucoup sont consacrés aux hommes. Et à partir d'aujourd'hui, là, maintenant, on commence à voir des séries de timbres consacrées aux femmes, hein, je parle de la philatélie en France, je connais un peu moins la philatélie étrangère. Est-ce que vous, dans votre volonté d'écrire ce roman Lettres aux absentes, vous avez voulu aussi faire ce devoir de mémoire, sachant que les derniers témoins, donc, qui ont vécu cette Seconde Guerre mondiale, qui ont été résistants, qui sont nés dans les années 20, c'est-à-dire 1924, 1925, peut-être 1930, et encore ils avaient 15 ans, 1945, donc ça veut dire des gens qui ont aujourd'hui 100 ans, et pour la plupart qui sont morts et dont les derniers vont certainement mourir dans les années qui vont venir, est-ce qu'il y avait cette volonté de conserver dans le marbre des mots ce souvenir par rapport effectivement à cette montée du fascisme dont vous parliez tout à l'heure?
Bien sûr. Vous avez parlé de graver dans le marbre. Moi, j'ai eu très envie de graver dans le marbre les actes héroïques, notamment des Espagnols, mais je n'exclus pas les Françaises. C'est vrai que j'ai une particularité, une affection particulière pour les Espagnols qui se sont engagés en Espagne contre Franco, contre le fascisme, qui arrivent en France et qui continuent à s'engager, alors qu'elles ont été mal accueillies, qui continuent à s'engager dans la résistance, comme Mercedes Targa à Carcassonne, comme New Catala, qui ont été complètement oubliés, mais oubliés aussi politiquement, parce qu'il ne fallait pas que ensuite la libération de la France ou l'engagement dans la résistance des Espagnols et des Espagnols puisse être revendiqué par les Espagnols. Donc, si vous voulez, donc la France n'était pas encline à supporter, si vous voulez, politiquement, ce cadre-là. Et donc, si vous voulez, moi, gravé dans le marbre, d'ailleurs, dans mon livre d'être aux absentes, effectivement, et vous verrez qu'il y a mes gravures. Et pour moi, la gravure, c'est pas neutre. Ça veut dire que c'est aussi faire en sorte que ça reste. Tout à fait. Et c'est ce que me disent les personnes, quelle que soit leur origine ou leur âge, elles me disent toutes, quand elles lisent d'être aux absentes, qu'elles ont appris des choses. Voilà. Et certaines me disent, des gamines notamment, parce que j'interviens dans des lycées, me disent on s'identifie à Louise, par exemple, qui est dans le livre, qui incarne les jeunes filles qui se sont engagées dans la résistance, qui était lycéenne. Voilà.
Alors, vous évoquez d'ailleurs à travers votre livre, donc on voit, il y a une trame, il y a des personnages qui sont fictifs, mais qui quelque part représentent des personnages qui ont réellement existé, des personnages qui sont réels, mais que vous romancez quelque part pour mieux effectivement parler du roman. Moi, j'aurais quand même signalé donc aux auditeurs et aux auditrices que vous avez eu un coup de cœur. Donc dans le journal, le fameux journal donc du Proche-Orient, L'Orient le Jour, qui est un journal donc que l'on trouve à Beyrouth, au Liban, alors que je connais très bien personnellement parce que j'ai de la famille au Liban, et donc quand j'ai été au Liban, je lis à chaque fois tous les jours L'Orient le Jour. Je vais lire quelques extraits de cet article qui s'appelle « Femmes en résistance ». Qui est un coup de cœur sous la plume de Yves Chemla, donc qui est un journaliste de L'Orient le Jour, qui écrit cela. Dans Lettres aux absentes, correspondance imaginaire de femmes résistantes, Manuela Parra réactive une mémoire oubliée, celle des femmes républicaines espagnoles qui ont subi le pire. Elles avaient lutté contre l'autoritarisme et les injonctions obscurantistes, vociféré contre l'exigence de la vie. Viva la muerte était l'abject slogan franquiste. Cette correspondance littéraire fait rappel de la résistance à la répression aveugle qui se prolongera longtemps après la fin de la guerre civile, les emprisonnements, sévices, raptes d'enfants, exécutions sans jugement. Celles qui auront rejoint la France seront nombreuses à entrer en résistance contre l'occupation nazie. Capturées, elles furent torturées, assassinées, envoyées dans des sinistres camps. Certaines ont survécu et ont raconté. Ce livre est une méditation qui trouve les mots pour susciter leur présence. Celle-ci rend nos mémoires plus assurées par l'exigence de liberté qu'elles n'ont cessé d'affirmer. Comment vous avez réagi quand vous avez vu qu'il y avait cet article sur votre livre, donc dans L'Orient le Jour, qui est quand même un journal de référence au Proche-Orient ?
Ben, j'ai été très émue, voilà, parce que je ne m'y attendais pas, parce que voilà, c'est la maison d'édition qui a... Et c'est vrai que oui, j'ai été très émue, surtout par rapport à tout ce qui se passe au Proche-Orient, par rapport à toutes ces femmes aussi qui résistent là-bas, dans des conditions horribles. Et je ne sais pas, enfin, pour moi, ça a été un grand honneur. Et j'aurais voulu aussi être modestement porte-parole de toutes ces femmes qui souffrent là-bas, quoi. Voilà.
On va parler, Manuela Parra, de ces femmes, effectivement, mais on va parler aussi de votre père. Parce que c'est à la mort de votre père que votre maman vous remet un carnet de poèmes aux pages jaunies. Et à partir de là, c'est le début d'une autre histoire, dans votre vie, la vôtre, où la honte de vos origines vous quitte à tout jamais. Racontez-nous ce moment.
Eh ben, ce moment, ça a été un moment de surprise, d'incompréhension. J'avais l'impression que je partais que c'était une autre vie qui m'était donnée, parce que j'aurais jamais imaginé que mon père ait pu écrire des poèmes, parce que maman ne savait pas que c'était pas lui qui les avait écrits, et moi non plus d'ailleurs. En plus, comme je ne parlais pas très bien l'espagnol, puisqu'on ne parlait que français à la maison et que moi j'avais fait anglais et allemand au lycée. Donc, si vous voulez, pour moi, ça a été une surprise incompréhensible et une énigme. Mais ça m'a même par moments embarrassée parce que ça perturbait toute la vision que j'avais et les sensations aussi, les émotions et la vie que j'avais eue jusqu'à présent par rapport à ce rapport à l'Espagne. Et donc, je ne savais pas quoi faire de ce patrimoine, de ces poèmes que ma mère m'a confié spontanément. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais posé la question. Pourquoi moi, on est six enfants. Je suis la dernière, c'est vrai que j'étais assez proche de mon père et que avant qu'il ne meure, il voulait à tout prix, il savait qu'il allait mourir, il voulait à tout prix que j'écrive avec lui son histoire de la guerre d'Espagne qu'il ne nous avait jamais trop confiée, quoi. Et là, puis on n'a pas pu le temps de le faire, donc. Et petit à petit, ces poèmes, après les avoir regardés pendant des années, m'ont mis sur le chemin de... m'ont aidé à rebrousser le chemin de l'exil de mon père, à faire de très belles rencontres, parce que sans ces rencontres-là, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait depuis. Et parfois, avec un peu de hargne, parce que j'en voulais à mon père, je me disais, mais si tu m'avais raconté tout ça, peut-être que ma vie aurait été différente. J'aurais pas fait les mêmes choix, j'aurais été fière de ce que tu as fait, j'aurais continué le combat, ton combat. Et puis, ben voilà, je me suis dit, bon, de toute façon, et puis avec notamment Des frontières et des femmes, que j'ai écrit et qui a reçu le prix Binaros chez vous, eh bien...
On s'en souvient, on y était avec Diego Arrabal.
Oui, c'est ça que je voulais.
Au salon du livre de Bagnères de Bigorre, oui, tout à fait.
Et je me dis que ces femmes-là m'ont appris, bon, petit à petit, quand je les ai rencontrées... À calmer ma fureur. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment et la conviction. Je me considère pas comme écrivain. Je me considère comme une passeuse. Et j'écris pour ça. Puis le jour où j'aurai plus rien à passer, ben j'arrêterai. Voilà. Voilà.
Alors cet aspect, moi je l'ai appris hein, concernant votre père dans un très bel article qui est consorti donc nos confrères du Midi Libre, donc oui. Journal hein, que l'on trouve notamment sur l'Hérault et sur toute la partie Languedoc-Roussillon. Oui. Voilà ce qui est écrit. Ils écrivent une revanche entre guillemets sur la vie et ils mettent vous concernant, fille d'exilés espagnols, habitée par la honte sur ses origines durant son enfance oui. au nom de l'intégration. Manuela Parra porte aujourd'hui la voix de ceux qui ne peuvent plus le faire. Tout bascule à la mort de son père. Sa mère lui remet un carnet aux pages jaunies sur lesquelles sont inscrits des poèmes. Longtemps, elle pensera que les mots calligraphiés par son père étaient les siens. Elle découvrira plus tard qu'il s'agissait en fait de ceux de Federico Garcia Lorca, recopiés par son père, alors qu'il se trouvait dans le camp d'Argelès.
Oui, c'est vrai.
S'ouvre alors un monde méconnu, un itinéraire de vie passée sous silence. Et là, vous déclarez, j'ai été ébloui par tout ce qui m'avait été caché. Si mon père m'avait raconté tout ça, je n'aurais pas eu honte de mes origines. Est-ce que vous n'avez pas la sensation, et c'est ce qui a donné hein, votre livre magnifique, Lettres aux absentes, donc publié au Chèvrefeuille étoilé, est-ce que vous avez eu l'impression quelque part que votre père, il a voulu vous protéger en ne vous racontant pas son histoire pour pas que vous alliez quelque part risquer de vous impliquer, notamment dans le cadre de la dictature franquiste, avec tout ce que ça aurait pu impliquer pour votre vie?
Ben, je crois qu'effectivement, il fallait d'abord... bon, en fait, après, il était quand même... Il était toujours impliqué quand il était en France. D'ailleurs, il n'a jamais obtenu... Mon père était capitaine dans l'armée républicaine. Il n'a jamais obtenu... Enfin, quand il a demandé une seule fois, parce qu'il avait quand même... Il était assez fier. Il n'a jamais obtenu la nationalité française.
Il ne l'a pas demandé? Donc, il ne l'a pas demandé ou
il a demandé une fois, on l'a lui a refusé parce que c'était un indésirable vu qu'il était engagé.
D'accord.
Et voilà, donc il y a ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose...
Et il a vécu ça comme une humiliation ou pas? Vous avez pu en discuter avec lui?
Oui. Ah non, mon père on ne discutait pas de ces choses-là. C'était très... Tout ça, on n'avait pas les rapports que l'on a aujourd'hui avec les parents, entre les parents et les enfants. On parlait pas de ces choses. D'abord, j'étais une fille, et puis même avec mon frère, il n'en parlait pas. C'était des taiseux. À l'époque, ils étaient taiseux, parce que je crois qu'ils avaient quand même vécu des traumatismes que le silence transmet quand même. Et donc, il était assez mutique. Mais quand des amis espagnols venaient à la maison, parce qu'ils faisaient quand même ils étaient engagés, ils s'enfermaient, ils parlaient entre eux, on entendait des bruits, c'était assez... Et nous, je pense qu'il y avait une manière de nous protéger, mais aussi se protéger, parce que il avait fait partie du cuartel de la Montagne.
C'était quoi le cuartel de la Montagne?
En fait, c'était à un moment donné, les insurgés, c'est-à-dire ceux qui s'étaient soulevés contre la République, de l'armée, s'étaient enfermés dans le cuartel de la Montagne. Et comme mon père qui était resté dans le giron de la République, et le peuple de Paris ont voulu aller dans la caserne parce que c'était là où il y avait les armes. Et donc, pour s'armer contre Franco, puisque Madrid a résisté et a gagné, d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, ils étaient enfermés, et là, ils sont arrivés à fracasser les portes. Le peuple de Madrid et mon père sont rentrés dans la caserne, et il y a eu un massacre. Et ils ont emporté tous les fusils, toutes les armes qu'il y avait à l'intérieur, quoi, voilà. Et donc, si vous voulez, il a participé à ce fait, et c'était su, puisqu'ils étaient tous fichés, et donc, il risquait le garrot. Voilà, il faut vous rappeler quand même que la France a livré un certain nombre de résistants espagnols à Franco, et ces résistants ont été fusillés. Ça, c'est des faits d'histoire. Donc, il y avait quand même toujours ce problème. Moi, je me souviens aussi, enfant, j'avais 4-5 ans, eh bien, chez moi, il y avait souvent des inspecteurs qui venaient, qui fouillaient, qui regardaient, etc. J'ai vu mon père un jour arriver comme une furie à la maison, alors que il travaillait, parce qu'il avait été certainement averti, et prendre un carton dans lequel il avait son uniforme, et puis des choses qui lui restaient de la guerre d'Espagne, et les faire disparaître, parce qu'après, il y a eu une fouille. Donc, si vous voulez, tout ça, c'était c'était clandestin en quelque sorte. Et il nous protégeait aussi parce qu'il savait que nous étions stigmatisés et stigmatisés à l'école. Je veux dire, combien de fois à l'école primaire on nous disait les sales espagnols ou Santelay, c'est des rouges, ils sont avec le diable, non, on ne joue pas avec vous à la marelle, voilà. Enfin, je veux dire, donc, pour lui, c'était aussi une manière de nous mettre à l'abri.
C'est une histoire vraiment émouvante que vous nous racontez là. Terriblement émouvante. Je rappelle le titre de votre ouvrage, hein, de votre roman, Lettres aux absentes, édition donc, du Chèvrefeuille étoilé, hein, qui est un échange épistolaire, donc imaginaire, effectivement, entre des femmes que vous avez voulu réhabiliter. Oui. J'avais une dernière question avant qu'on se quitte. Comment vous expliquez, et c'est tout, je trouve, l'objet de votre livre que de les réhabiliter, comment vous expliquez que les hommes soient toujours mis en avant dans les actes de résistance et que les femmes soient si peu citées et mises à l'honneur?
Parce que je pense que c'est des... Bon, on parle des années... 30-40... ce sont, je pense, des restes culturels. Bon, où on le voit aussi aujourd'hui dans des pays où les femmes se battent et elles ne sont pas non plus reconnues. Ce sont des pays qui restent sur des schémas, à mon avis, archaïques. Et voilà. Enfin, et je trouve que, et puis les femmes ont mis longtemps à se battre pour ça, parce que finalement, elles sont reparties derrière les fourneaux, de s'occuper des gamins. Pour elles, il y a, même si elles ont milité, je pense à quelqu'un comme Nunes Targa qui est revenue, qui est la première, le premier personnage qui est incarné dans le premier personnage. Qui est Inès dans Lettres aux absentes. Après, elles sont rentrées avec force, elles ont milité, elle a voulu à tout prix faire condamner son tortionnaire, qui a été pendu d'ailleurs, mais elle a voulu témoigner. Mais après, bon, elles ont eu des activités dans les années 60, 70, dans les familles familiales, etc., etc. Mais elles ont repris le rôle de la femme avec des activités à côté. Et je pense, pour moi, c'est culturel. En France, pour nous, ce serait peut-être plus le cas aujourd'hui.
Voilà. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Je le reprécise, je citais tout à l'heure l'article, vous savez, dans L'Orient le Jour, donc sur votre livre, oui. Lettres aux absentes, oui. Publié au Chèvrefeuille étoilé. La photo, puisqu'on fait de la radio, ça ne se voit pas, mais la photo qui est mise en évidence, c'est une photo de femme espagnole avec des fusils. Mmh. Et donc on voit bien, hein, que ce sont des combattantes. Et je trouve que votre livre aujourd'hui, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, fait un écho aux femmes ukrainiennes aujourd'hui qui se battent sur le front. On voit des reportages de temps en temps à la télé, aux femmes kurdes qui se sont battues notamment contre Daesh, donc au Proche et au Moyen-Orient, et que l'on a vu également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à voir des reportages qui montre qu'effectivement, il y a des femmes résistantes, y compris des combattantes sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la place des femmes est beaucoup plus reconnue et que votre livre, quelque part, va faire œuvre, effectivement, pour aider à redonner une place aux femmes dans le cadre, effectivement, de la résistance à toutes les oppressions, hein, que ce soit le fascisme ou toute autre forme de pouvoir qui vise à confisquer la liberté des hommes et des femmes?
Oui, ben, je l'espère d'une part, et puis si vous voulez, c'est aussi l'objet de tout le travail d'intervention que je fais sur justement les femmes en guerre, femmes courage, dans des lycées, dans des collèges, pour sensibiliser les jeunes aujourd'hui de manière à ce qu'ils puissent être aussi des courroies de transmission. Mon enjeu, c'est pas non plus de faire... entre guillemets, hein, une corporation ou un communautarisme femme-femme par
d'accord,
rapport à ça.
D'accord, ou du militantisme, d'accord.
Voilà, mon enjeu, si vous voulez, c'est de rééquilibrer l'engagement de l'homme et de la femme universelle, et pour qu'on se rende compte qu'il faut ensemble à la fois se battre et puis faire reconnaître des valeurs qu'il faut garder, des valeurs de liberté, des valeurs républicaines, quoi. Et donc effectivement, mon souci, c'est de remettre à niveau, en quelque sorte, même si quand j'interviens dans des lycées ou même dans des conférences, quand on me demande sur l'engagement des femmes, je parle un peu de l'équilibre à rétablir, mais du combat homme-femme commun qu'on doit. Parce que je m'inspire quand même, il y a un homme qui s'appelle Léopold Lacour, qui a inspiré notamment des femmes en Espagne en 1932, qui sont les Mujeres Libres, et qui était sur ce principe de d'homme-femme universel. Et je trouve qu'on doit ensemble travailler et résister. C'est pas, la résistance n'appartient pas aux hommes et n'appartient pas qu'aux femmes. Elle appartient aux citoyens, aux individus, à part entière. Voilà. Donc,
c'est un joli mot de conclusion, Manuela Parra, de cette très belle interview. Je rappelle, hein, vraiment, je recommande votre roman « Lettres absentes », édition donc, du Chèvrefeuille étoilé, parce que c'est aussi la façon dont vous l'avez conçu, un roman qui interroge et qui constitue effectivement ce devoir de mémoire dont je parlais dans mon propos liminaire donc, lors de cette interview. Vraiment, voilà, Les Tropes Absentes, édition du Chèvrefeuille étoilé, Manuela Parra, un roman à lire, on arrive tout doucement vers l'été, c'est vraiment un roman qu'on peut lire à l'ombre, avec un petit thé glacé, ou qu'est-ce que vous prendriez, vous Diego Arrabal, avec ce roman ?
Un petit peu de menthe.
Bon.
De gin.
Un petit peu de gin, voilà.
De la douceur. Voilà.
Une petite douceur, voilà, pour le faire. En tous les cas, merci beaucoup, Manuela Parra,
de m'avoir accordé ce temps. J'en suis très touchée. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.